Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique, que vous pouvez également écouter en podcast. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche se déroule sans heurts notables. Le spectre de la guerre civile brandie durant la campagne s'est éloigné. Les auditions se succèdent au Sénat pour les validations des nominations aux postes clés. La période de transition fut un moment hors norme pour Donald Trump, qui s'est beaucoup activé en Floride, alors que les démocrates avaient pour ainsi dire disparu de la scène américaine. Michelle Obama a annoncé qu'elle ne serait pas présente à la cérémonie d'investiture, contrairement la tradition qui veut que les épouses des anciens présidents le soient. Elon Musk sera un personnage clé de la future administration du président Trump, qu'il a nommé à la tête d'une nouvelle commission sur l'efficacité gouvernementale. Il a promis 2000 milliards d'économies. Que sera ce second mandat? Donald Trump sera-t-il un hyper-président? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Laurence Nardon, responsable du programme Amérique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, auteur de Géopolitique de la puissance américaine aux presses universitaires de France, et productrice du podcast hebdomadaire sur la politique américaine appelé New Deal. Bonjour Laurence Nardon.
Bonjour.
Également Célia Belin, directrice du bureau parisien de l'ECFR, l'European Council on Foreign Relations, experte des questions américaines et transatlantiques et auteure des Démocrates en Amérique aux éditions Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Axel Kroos, ancien rédacteur en chef de l'International Herald Tribune à Paris et ancien correspondant de Business Week à Paris, Moscou et Washington. Bonjour.
Bonjour.
Et avec nous, depuis les États-Unis, par téléphone, Stephen Dreyfus, avocat américain, ancien procureur à New York, ancien président de la Chambre de commerce franco-américaine à New York et ancien président de l'Union internationale des avocats. Bonjour.
Bonjour.
Je propose de commencer cette émission par le discours de Joe Biden depuis son bureau ovale. C'était jeudi soir, heure des États-Unis. Un discours d'adieu dans lequel Joe Biden a dit au revoir à 50 ans de vie publique et lancé un avertissement au peuple américain au sujet de l'avènement potentiel de ce qu'il a appelé un complexe techno-industriel qui pourrait faire courir de vrais dangers aux États-Unis. D'après Joe Biden, une oligarchie prend forme en Amérique, faite d'extrêmes richesses, de pouvoir et d'influence, autant de menaces, a-t-il dit, à la démocratie. À quoi s'ajoute l'avalanche de désinformation qui ensevelit les Américains, d'après le président sortant. Joe Biden a également réclamé une réforme du financement de la vie publique, plus de justice fiscale, et a appelé à une limitation à 18 ans du mandat des juges de la Cour suprême nommés à vie. Que ne l'a-t-il pas fait durant son dernier mandat? Joe Biden a également appelé de ses voeux une modification de la Constitution pour introduire la responsabilité du président pour les crimes éventuellement commis dans l'exercice de ses fonctions, mais aucune autocritique sur la responsabilité des démocrates dans la victoire de Donald Trump. Quel regard portez-vous, Stephen Dreyfus, sur cette intervention, la dernière de Joe Biden?
C'était extrêmement intéressant parce que ce n'était pas le discours de valédiction, si on peut dire ainsi, qu'on attend normalement d'un président en train de sortir. C'était un discours qui se voulait sur les marches de à la fois Franklin Roosevelt et notamment Dwight Eisenhower, qui lui, Eisenhower, nous a fait le fameux avertissement contre le military, le complexe militaire industriel, alors que Biden a parlé notamment de l'oligarchie qui se construit autour du complexe techno-industriel qui trouve une menace à la démocratie américaine. Et il parle notamment de la quantité de milliardaires qui auront les ministères dans le gouvernement de Trump. Il met en garde l'Amérique contre cette menace, selon lui, à la démocratie américaine. Et c'est quand même un peu comme il a fait pendant la campagne, et ce qui n'a pas marché, quand il a parlé, il a dit à plusieurs reprises que Trump était un danger, une menace à la démocratie américaine, alors qu'en fin de compte, les Américains ont voté leur portefeuille et pas sur les craintes concernant la démocratie. Mais lui, il a fait ses avertissements. Et ce qui a rendu son discours beaucoup plus intéressant et fort est le fait qu'il le fasse formellement dans le bureau ovale, au lieu de le faire comme l'ont fait d'autres présidents à l'extérieur avec un public qui l'acclamait, était plutôt bien pour son discours parce que ça lui a empêché de faire des rajouts comme il a tendance à faire, qui viennent réduire la signification de ce qu'il dit. Donc, c'était plutôt bien reçu comme une réussite, alors que je pense que très peu d'Américains relativement l'ont suivi. C'était à 20h du soir et ce n'est pas la première chose sur la télévision américaine. Mmh. Mais quand même, c'était un discours à noter parce qu'il y avait du fond et il y avait des avertissements et on va voir si ces avertissements deviennent réalité. Mmh.
Mmh. Commentaire en studio avec vous, Laurence Nardon.
Bah, oui, en effet, Joe Biden a des raisons de sentir que sa défaite, finalement, était relativement injuste parce que les Américains, les électeurs américains ne l'ont pas suivi lorsqu'il dénonce la menace que Trump représente pour la démocratie américaine. Et la seconde injustice, c'est que Biden a mené pendant 4 ans une politique économique à coût d'investissement en milliers de milliards pour rendre leur prospérité aux classes moyennes, à coût d'investissement, etc. Ça semblait, vu de France, en tout cas très vertueux, très, très, très positif, pour ramener de l'emploi, de l'espoir, rembourser la dette étudiante, etc. Et le fait est, les électeurs américains n'ont pas du tout vu ça comme ça et ils n'ont pas suivi ce président sur cette politique-là.
Mmh. Alors c'est vrai que la question de l'inflation, Célia Belin.
Oui. Je voulais juste dire qu'il y a quand même un fil conducteur chez Joe Biden qui s'est incarné dans ce discours d'adieu, qui est en fait la suite logique de ce qui a été l'aventure présidentielle de Joe Biden à partir de 2017, qui est en fait le moment où il décide de se lancer vers l'élection de 2020. Et en 2017, il y a les événements de Charlottesville, où la manifestation néo-nazie de Charlottesville a mené à la mort d'une contre-manifestante et où il avait écrit à ce moment-là une tribune appelant à restaurer l'âme de l'Amérique. Et donc c'est face à ces événements qui avaient choqué l'Amérique de penser que des néo-nazis pouvaient librement manifester et cette montée ressentie de l'extrême droite en écho avec un Donald Trump qui venait d'arriver aux affaires, où donc Joe Biden structure sa propre campagne présidentielle et il est élu en 2020 avec cette promesse de restaurer l'âme de l'Amérique et donc une promesse de restaurer la dignité, de restaurer la démocratie, de la liberté. Il y a tout un tas de vocabulaire qui est exprimé à travers cette campagne et qui espérait être une restauration. Et on se rend compte, en fait, avec le retour de Donald Trump, que la parenthèse, ce n'était pas Donald Trump, mais c'était Joe Biden. Mmh. Et donc là, il en fait le constat, mais il continue à travers donc ce fil conducteur toujours de dénoncer tout ce qui a été les attaques sur la démocratie américaine et qui n'ont eu de cesse de s'incarner à travers l'attaque du 6 janvier du Capitole en 2021, bien sûr, dont on se souvient avant même qu'il rentre aux affaires. Puis, pendant qu'il était aux affaires, il a beaucoup parlé de ce grand discours international entre la lutte entre les démocraties et les autocraties. Donc, c'est le fil conducteur. Et là, on arrive à ce dernier point de dire, voilà, bah, l'Amérique s'apprête à voir le retour de Donald Trump. Mais ne vous y trompez pas, la démocratie est toujours en danger. Cette fois, elle a pris le danger a pris le visage de ce techno-industrialisme oligarchique qu'on voit s'incarner chez, par exemple, Elon Musk. Mais en tout cas, il continue d'avertir les Américains sur ces dangers faits à la démocratie américaine.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Alors, j'aimerais qu'on s'appesantisse sur le dernier élément que j'ai mentionné, moi, concernant le discours donc, d'adieu de Joe Biden. C'est sur cet appel à une modification de la Constitution pour introduire la responsabilité du président pour les crimes éventuellement commis dans l'exercice de ses fonctions. Axel Kroes, qui était visé, d'après vous ? Donald Trump pour l'affaire du Capitole ou bien George W. Bush pour l'Irak, l'Afghanistan ?
Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je crois qu'il essaie de protéger les choses qui peut-être vont venir, parce qu'il y a encore les décisions par les tribunaux concernant Trump, comme ici en France, il y a le même problème avec M. Sarkozy, on a des problèmes. Mais un mot sur le discours de Joe. C'est dommage, dans un sens, qu'il n'a pas fait ce discours plus souvent pendant la campagne.
Ouais, c'est ce que
parce que le bilan n'était pas accepté par la plupart des Américains. Beaucoup d'Américains, et peut-être le Parti démocrate, portent une très grande responsabilité pour l'échec, l'échec de Kamala Harris. Et il aurait dû peut-être faire tout ça beaucoup plus tôt. Too little, too late, je trouve. Mais c'était bon. Il laisse un bon bilan quand même. L'économie américaine marche pas mal.
Tout à fait. Alors, Stephen Dreyfus, vous voulez rajouter quelque chose à propos de cette modification de la Constitution aussi la limitation à 18 ans du mandat des juges de la Cour suprême ?
Stephen Dreyfus. Ça, c'est une autre question. Je voulais dire à propos de son discours qu'il faut reconnaître qu'il est devenu un très mauvais communicant. Il parle, il avale ses mots, il est très difficile parfois même à comprendre ce qu'il dit, même quand il parle d'un texte déjà établi, et quand il parle de manière extemporanée, c'est encore pire. Donc il n'était pas le meilleur avocat pour sa cause, et donc c'est pour ça que ce discours sous des conditions contrôlées du bureau ovale était meilleur pour lui, était plus efficace pour lui. Mais le problème électoral qu'il avait, c'est que même s'il avait des accomplissements importants à énoncer, il n'était pas en mesure de les faire passer. Et c'est un grand problème. Et donc, dernièrement, depuis le 5 novembre, il a tendance à dire à ses proches qu'il est sûr que lui aurait pu gagner. Alors que Kamala Harris a perdu. C'est complètement à côté de la plaque. Et le fait qu'il continue à penser ça, c'est non seulement ça offusque Kamala Harris sans raison, c'est quand même en déconnexion avec la réalité des choses.
On sent une frustration sous-jacente à travers ces propos. J'aimerais qu'on se penche maintenant sur la cérémonie d'investiture. On l'annonçait flamboyante et en raison de la météo et du froid qui s'est abattu sur la capitale fédérale, décision a été prise de déplacer la cérémonie à l'intérieur du Capitole, alors qu'elle se déroule traditionnellement sur l'immense pelouse tout en longueur, le môle devant le Capitole. Alors on se souvient de celle de 2016 qui avait été d'une certaine manière un peu, je ne sais pas quel mot employer, sombre, avec beaucoup d'espace laissé vacant. Tout le Washington n'avait pas accouru à cette cérémonie. Alors, au-delà de ça, quel regard vous portez sur la transition et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette transition de la présidence à venir? Je ne sais pas qui souhaite commencer, Laurence Nardon.
Oui, la grande différence entre la cérémonie de 2016, où effectivement il y avait des places vides, on le voyait dans la perspective devant le Capitole, et ce discours très dur de Donald Trump. Enfin bref, la différence entre cette cérémonie-là en 2016 et celle de demain, lundi, c'est que Trump pouvait... on pouvait penser qu'il avait été élu par accident en 2016, alors que cette fois-ci, 2024-2025, on voit bien que son élection correspond au souhait, en toute conscience, d'une majorité d'électeurs américains. Donc la situation est totalement différente. Et l'une des différences qu'on voit, entre autres, c'est qu'il n'y a pas eu, depuis l'élection de novembre, de manifestation des démocrates comme il y avait eu en 2016. Vous savez, ce mouvement hashtag résistance, ces manifestations de femmes avec un petit bonnet rose et le sentiment qu'avaient les démocrates à l'époque, à tous les sens du terme d'ailleurs, d'un danger imminent, d'une nécessité de se ressaisir. Cette fois-ci, en 2024 et 2025, on voit au contraire un silence total de l'opposition démocrate et un ralliement de beaucoup de gens au pouvoir trumpiste qui va se mettre en place, les milieux d'affaires, la Silicon Valley, même beaucoup d'organes de presse modérés. Je ne parle pas de Fox News et autres, je parle de ABC, je parle de d'autres médias, comme on dit mainstream, qui semblent se rallier à Donald Trump. Tout le monde... finalement, semble se coucher devant lui.
Célia Belin.
Oui, je faisais exactement le même constat. Je remarque à quel point 2016-2017, le moment l'arrivée de Donald Trump, lui-même était très sombre, très combatif. Son discours, c'était quand même le carnage américain. Donc, il dépeignait une Amérique absolument terrible à laquelle il allait remédier, alors que là, il est triomphant. En 2017, il y avait cette mobilisation, et là, c'est la résignation. Le constat est celui-là. La question, c'est de savoir si ça va durer dans le temps. Donald Trump se félicite. Il faisait un post sur son réseau social Truth Social hier en disant « ça y est, on a nommé déjà plus de 1000 personnes au cours de la transition qui vont arriver directement aux affaires. On sait que son cabinet est déjà prêt. » C'est très différent de la transition précédente. Ce sont que des loyaux serviteurs du Trumpisme, ce sont que des gens avec qui il est confortable, dont il sait qu'ils vont développer la politique qu'ils souhaitent. D'ailleurs, ils avaient déjà commencé à y réfléchir puisque le think tank Heritage Foundation avait monté tout un projet qui a mené à une publication de près de 1000 pages qui s'appelle Project 2025, qui réfléchissait à comment mettre en musique le Trumpisme dans tous ses aspects, avec des propositions radicales de transformation de l'Amérique. Et c'est ces gens-là maintenant qui sont nommés à ces 1000 postes qui devraient commencer dès la semaine prochaine. Donc c'est le moment du triomphe pour Donald Trump. La Silicon Valley vient prêter allégeance, tout le monde sera là pour l'applaudir, et même les adversaires ou les partenaires angoissés de l'autre côté de l'océan Atlantique sont très mesurés dans leurs critiques, sont plutôt pragmatiques, etc. Mais combien de temps est-ce que ça va durer? Parce qu'en fait, si on regarde le programme extrêmement radical qui est prévu par Donald Trump et le type de personnes qu'il a mis en place, il veut une transformation vraiment profonde et totale de l'Amérique vers un modèle à la fois, c'est ça qui est difficile, libertarien, ultra conservateur, ultra capitalistique ou mercantiliste, et à la fois protectionniste, et puis anti-immigration, au point d'aller de promettre d'aller chercher plus d'un million de personnes chez eux pour les renvoyer en dehors du pays. S'il met en place ne serait-ce qu'un petit pourcentage de cette promesse incroyable qu'il fait à l'Amérique, ça va être tellement compliqué, tellement chaotique, tellement difficile à mettre en place, une telle révolution conservatrice, que je pense que cette opposition qui est aujourd'hui résignée, absente, elle va nécessairement renaître. En tout cas, ça va être très violent pour l'Amérique là, dans les prochains mois, s'il fait ce qu'il a dit qu'il ferait.
Donc pour l'instant, il nous reste une minute avant la fin de cette première partie d'émission. Axel Kroos, je suis désolée, mais je vous promets, je vous laisserai la parole pour redémarrer la deuxième partie. Donc cette transition, elle s'est passée de manière finalement plutôt plus calme que ce qui avait été craint. Rappelez-vous, pendant la campagne, on avait dit si Trump, etc., ça va être la guerre civile, etc. Oui. Voilà, c'est plutôt calme et on a vu beaucoup de gens...
Calme, oui. Je crois que Trump peut avoir un seul regret. Un regret qui est déjà manifesté après avoir assisté à un 14 juillet ici à Paris avec le président Macron. Il a vu la garde républicaine et surtout tous les chars et tout l'équipement militaire de l'armée française. Et il est retourné à Washington et il a dit « I want the same thing ». Je veux la même chose ici.
Enfin, il n'y aura pas de char pour la cérémonie d'investiture,
il adore le spectacle. Ouais. Et il voulait avoir le même spectacle pour une occasion à Paris. La ville de Washington, D.C., lui a dit « Désolé, on ne peut pas ». Et il va certainement jouer le jeu et peut-être même il va dire peut-être quelque chose de drôle pour une fois. Il n'est pas très drôle. On verra bien, mais ça, c'est quand même toute l'Amérique va peut-être dire wait and see.
Wait and see. Attendons et voyons. Axel Kroos, on vous retrouve après le journal avec Stephen Dreyfus qui est avec nous par téléphone depuis les États-Unis, Célia Belin et Laurence Nardon. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Regard sur les États-Unis, nous retrouvons nos invités. Célia Belin, directrice du bureau parisien de l'ECFR, European Council on Foreign Relations. Laurence Nardon, responsable du programme Amérique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Axel Kroos, ancien rédacteur en chef de l'International Herald Tribune. Et par téléphone depuis les États-Unis, Stephen Dreyfus, avocat américain et ancien procureur à New York. Stephen Dreyfus, j'aimerais comprendre ou que vous nous aidiez, que vous nous éclairiez sur l'attitude qui va être celle des démocrates pendant ces 4 années de présidence Donald Trump. Est-ce que, en particulier, ils vont laisser Trump gouverner ?
C'est très intéressant parce qu'il commence à se former une certaine prise de conscience, parce que depuis le 5 novembre, les démocrates font leur compte et essaient de voir pourquoi ils ont perdu. Et certains des leaders démocrates constatent que Trump est parvenu à démontrer que le Parti démocrate était sous l'emprise et sous la houlette de l'extrême gauche de ce parti. C'était l'une des raisons de la perte. Or, il y a certains et certaines présidentiables qui, pour 2028, du côté démocrate, qui commencent à fabriquer une voie modérée pour dire on va essayer de travailler avec l'administration Trump au lieu de toujours être résistant. Il y a une semaine environ, un discours de la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, qui est certainement une présidentielle, qui a encore 2 ans de mandat de gouverneur, qui commence à dire, nous, on garde nos principes, mais quand même, il faut essayer d'accomplir quelque chose pour le peuple américain. Donc là où on peut travailler avec l'administration, on le fera tout en gardant nos principes. Et c'est un discours qu'on considère que peut-être l'électorat aimerait entendre. Parce que si simplement ça se fait droite contre gauche, et surtout en matière sociale dont on va parler, où il y a des divisions énormes au sein du pays, ça pourrait avoir un attrait, une candidature fédératrice au lieu d'adversaire. Et ça commence à se construire, ce n'est pas uniquement Mme Whitmer, ce serait, à mon sens, également Pete Buttigieg, qui est aussi, c'est le ministre des Transports sortant, mais aussi était candidat en 2020, malheureux, pour la nomination démocrate, et il sera certainement en lice pour 2028. Et donc là, c'est une chose qu'on devrait regarder pour voir si ça prend vie, notamment au sein de l'opposition démocrate au Congrès, où ils sont à quelques sièges près de regagner le pouvoir dans les mi-termes, les mi-mandats de 2026, parce que c'est effectivement, ce sera le but du Parti démocrate de gagner les mi-mandats, comme ils l'ont fait la dernière fois, et effectivement, comme le font normalement les gens dans l'opposition à chaque présidence. Mmh. Donc, je crois d'ici les 2 ans à venir seront déterminants. Mmh.
Vous partagez Laurence Nardon, Célia Belin, Axel Kroos, que vient de dire Stephen Dreyfus sur l'attitude des démocrates et...
Je crois qu'ils vont être surtout défensifs et ça risque de créer beaucoup de chaos. Ça dépend si les républicains acceptent des modifications, le partenariat avec les démocrates. Encore une fois, il faut attendre, mais les démocrates quand même ont des positions importantes au Sénat et à la Chambre. Il ne faut pas oublier que la droite, que les conservateurs, les républicains ont une marge très mince, 5-6 votes seulement dans le Sénat, le Congrès. Bon, en vue des midterm elections l'année prochaine, à part ça, ils vont souhaiter bonne chance, peut-être avec une certaine amertume, mais voilà. Il est là, il va avoir le pouvoir, mais il y a déjà les premiers signes encore de résistance. Les gens, même au sein de le groupe autour de Trump, Steve Bannon, qui était l'ancien collaborateur, a lancé une attaque assez violente contre Musk et la question des déportations des ouvriers, des techniciens, etc. et il a même attaqué, on peut peut-être revenir là-dessus, mais il y a des gens qui déjà organisent une opposition très forte et même de résistance. Mmh. Donc ça peut créer beaucoup de chaos pour le système de gouvernance américaine si des républicains et des démocrates n'arrivent pas à travailler ensemble. On verra.
La question des déportations nous fait entrer dans l'un des piliers du mandat de Trump, c'est la question de l'immigration. L'autre pilier, c'est la production de pétrole et de gaz, donc une politique énergétique très forte. Quelle certitude a-t-on vraiment sur ce que Donald Trump va faire et quelles vont être, d'après vous, les premières mesures qu'il va prendre, Célia Belin ?
Je pense qu'on n'a pas de certitude sur ce qu'il va faire. Il y a des promesses électorales. Donald Trump a promis d'expulser 1 million de clandestins aux États-Unis. Mais en fait, il a dit au fur et à mesure des interviews, ce sera 5 millions, ce sera 10 millions, il y en a peut-être 20 millions. C'est complètement excessif. Rien que la mise en place pour expulser 1 million de personnes serait une entreprise tout à fait massive et coûteuse. Donc, point d'interrogation sur ce point-là. On sait que le directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, Stephen Miller, qui était son conseiller à l'immigration du précédent terme, est toujours obsédé par cette question de l'immigration et veut refaire ce qui avait été fait, c'est le Muslim ban, c'est-à-dire l'interdiction de voyager aux États-Unis de pays musulmans, donc les citoyens de ces pays-là ne puissent pas venir aux États-Unis, veut remettre en place un certain nombre d'interdictions de voyager comme ça. Donc il y a des projets très radicaux. Mais pour reboucler avec ce qui a été dit précédemment sur le Parti démocrate, je voudrais modérer un tout petit peu ce qui a été dit sur la voie centriste, qui est très importante. On sait que les démocrates gagnent au centre alors que les républicains peuvent gagner à droite. Les démocrates ont besoin de rassembler, ils ont besoin d'un plus grand chapiteau. Cela étant, l'énergie de la base, l'énergie des activistes, c'est ça qui a fait gagner Joe Biden en 2020. Il ne faut pas l'oublier, Joe Biden a gagné en 2020 grâce à Black Lives Matter. C'est donc Joe Biden plus Black Lives Matter qui ont gagné en 2020. Je caricature un peu, je vais un peu vite, mais Black Lives Matter, c'est un grand mouvement de mobilisation de justice sociale autour de la mort de George Floyd. Et ce qui a manqué à Kamala Harris, à part le fait que sa campagne était beaucoup trop courte pour l'emporter, c'est aussi cette mobilisation progressiste qui n'existait plus. Donc ce qui va se produire en parallèle, c'est à la fois cette voix modérée, c'est peut-être celle-là qui va gagner les primaires, mais l'énergie du terrain, elle ne peut venir que face à la réalité de politiques trumpistes qui vont être très dures pour les Américains et qui va remobiliser le terrain. On le voit déjà avec, par exemple, la représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, qui a commencé à mobiliser les communautés hispaniques en disant, voilà, si vous avez autour de vous des gens qui sont vulnérables, qui vont peut-être être expulsés, voilà quelles sont les procédures. Donc, elle fait une sorte de mobilisation de terrain, elle et bien d'autres activistes à travers le pays. Donc, il va y avoir une opposition. Vous posez la question de l'énergie. C'est pareil sur le climat. Kamala Harris n'a jamais parlé de la question climatique. Or, les activistes du climat sont toujours là. Et ils vont se mobiliser d'autant plus que Donald Trump va faire une politique énergétique à tout va dans tous les sens. Donc, je pense que c'est la combinaison des deux qui fait le succès du Parti démocrate. C'est pas pour tout de suite. C'est peut-être pour 2026, c'est peut-être pour 2028. Mais en tout cas, à mon avis, il y a un moment où ça repartira de la base.
Laurence Nardon.
Oui, alors de la même manière qu'il y a plusieurs courants au sein du Parti démocrate, comme Célia Belin vient de le dire, entre les modérés et les radicaux, il y a plusieurs courants autour de Trump. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans sa future administration. Et c'est ce qui rend la lecture de ses propositions pour l'instant si difficile, parce que il est vrai que d'une part, il annonce tout un tas de choses extrêmement excessives. Ça, c'est sa manière de négocier. On annonce des projets très radicaux, presque délirants. Et puis après, on revient en arrière dans la négociation. C'est ce qu'il a appris à faire dans l'immobilier à New York. Mais aujourd'hui, on voit qu'en plus de ça, derrière lui, dans son administration qu'il va donc nommer à partir de demain, il y a des gens qui sont à la fois d'un courant très réactionnaire, la droite religieuse, d'un courant libertarien, donc absolument attaché avant tout à la dérégulation, et plus les populistes, plus encore d'autres. Et on voit bien que dans les politiques qu'il va vouloir mettre en place, donc on a parlé de l'énergie, de l'immigration, on pourrait aussi parler des tarifs douaniers, qui est quand même un de ses gros thèmes de campagne ces derniers mois, eh bien, on voit que derrière lui, il y a des gens qui ont des positions totalement contradictoire sur ces sujets. Pour reparler de l'immigration, par exemple, donc, il a ses projets de deportation en anglais. Je crois que le terme français, c'est remigration. C'est ce que propose Zemmour quand il parle de...
C'est des expulsions.
Oui, mais, mais à cette échelle-là, on est dans une autre réalité. On voit bien que derrière lui, Elon Musk a déjà commencé à dire que lui, il voulait que les gens avec des diplômes, avec le visa H1B, puissent rentrer. D'autres républicains ont demandé à ce que des gens à bas niveau de diplôme puissent rentrer pour cueillir les fraises et les amandes en Californie. Donc on voit bien, vous voyez que les gens ne sont pas d'accord dans ses propres équipes.
Alors, Laurence Nardon parlait des tarifs douaniers. Je vous passe la parole à Axel Krause. La question des tarifs douaniers, Donald Trump, il est particulièrement attendu sur ce qui a fait chuter Joe Biden, c'est le coût de la vie. Et il est attendu sur une baisse du coût de la vie. Là, il y a antinomie entre la question des tarifs douaniers et puis la baisse des prix.
Il était en guerre aussi contre l'inflation. Deux petits commentaires là sur les déportations. D'abord, le chiffre qui était souvent cité le plus, c'est 11 millions de gens qui veulent déporter. Steve Bannon, que j'évoquais tout à l'heure, qui était un proche collaborateur de Trump, a ouvertement attaqué Musk. Et la position que Musk maintient, c'est absolument indispensable de maintenir toute la main-d'œuvre qu'on a à Silicon Valley, par exemple, qui sont les étrangers peut-être pas en règle avec le visa, etc. Mais Bannon a dit que par quel droit est-ce qu'un mec de l'Afrique du Sud nous explique comment il faut faire. Il faut que ça expulse des gens. Mais tous les économistes qui sont préoccupés par l'inflation sont absolument totalement contre le plan tariffs, les taxes sur les importations, seraient catastrophiques pour l'économie américaine, surtout l'inflation. Étant donné qu'on a déjà un déficit vis-à-vis le monde, surtout les Européens, c'est pourquoi il est en guerre contre les Européens, surtout Musk. Mais c'est une question vraiment qui va être posée vis-à-vis les déportations. Un conseiller de Trump a déjà annoncé à quelques journalistes à Washington l'autre jour que, oui, mais vous savez, on ne va pas expulser c'est 11 millions, ils reconnaissent quand même que 11 millions va faire un trou absolument énorme.
Oui, pour le fonctionnement des entreprises.
Des entreprises, dans l'agriculture, dans l'industrie, on a besoin de ces gens. Même, et c'est un exemple, comment il a déjà reculé par ses intermédiaires de ses collaborateurs. Cette source proche de Trump a dit, mais vous savez, on va certainement pas expulser 11 millions. Peut-être on va expulser simplement ceux qui sont des criminels. Voilà ce qu'il a expliqué l'affaire. Et donc, c'est un exemple de comment, dès qu'il y a un peu de backlash contre un projet, Trump ne dit plus rien. C'est par exemple l'histoire qu'on avait à Springfield avec les they're eating the dogs, they're eating the dogs. On a parlé de ça pendant plusieurs semaines et finalement tout le monde a découvert que those eating the dogs étaient les Haïtiens émigrés importants dans cette petite ville et des entreprises avaient besoin de ces Haïtiens. Et tout le monde a compris, Trump compris, et voilà, l'histoire a disparu. Et ça, c'est typiquement de Trump. Il lance une idée, ça s'appelle trolling. Ça veut dire la pêche à la traîne, où il sort des idées, boum, comme ça, et après, il recule en disant où il est, où oublie Groenland, le Mexique, etc. Est-ce qu'il va continuer comme ça à la Maison-Blanche? Peut-être, peut-être pas.
En tout cas, et on l'a dit, Elon Musk sera donc un personnage clé de la future administration, hein, avec Donald Trump qui l'a nommé à la tête d'une nouvelle commission sur l'efficacité gouvernementale et il a promis 2000 milliards d'économies. C'est tout à fait intéressant. J'aimerais qu'on dise quelques mots avec vous, Stephen Dreyfus, sur peut-être la Cour suprême, en tout cas la justice, Donald Trump, les procès, tout ça, enfin je veux dire, il peut parfaitement voilà, entamer son mandat, il est tranquille de ce côté-là.
Il est tout à fait tranquille et c'est parce que Donald Trump a constaté, et comme je suis ancien procureur, j'ai appris très tôt que c'est l'accusé qui sait mieux que quiconque ce qu'il a fait. Alors Trump, connaissant ce qu'il a fait, a su que sa meilleure défense serait aux urnes. C'est pour ça qu'il a déclaré sa candidature alors que l'enquête fédérale sur le 6 janvier était déjà en cours. Il a déclaré sa candidature en novembre 2022, alors que normalement ce serait au printemps ou en été 2023. Il a déclaré sa candidature pour pouvoir dire ensuite que ses poursuites étaient destinées à défaire la candidature du candidat plus fort des Républicains. Et effectivement, sa stratégie a marché parfaitement, c'est-à-dire des reports, des appels, etc. Parce que sur le fond de l'affaire, comme en témoigne le rapport de Jack Smith, le procureur spécial, qui a été publié finalement en début de la semaine dernière, après des efforts jusqu'à la Cour suprême de Donald Trump de le supprimer, démontre en détail les preuves tout à fait accablantes de la responsabilité pénale de Donald Trump pour les événements du 6 janvier. Et donc, Trump a dit, la seule façon de me protéger contre ça, ce serait d'être réélu. Il déclare sa candidature et il martèle sur le caractère politique. Le dernier sondage était que parmi les républicains, un pourcentage de 60 ou 70% considère que la motivation de ces poursuites était purement politique. Alors que Smith a dit dans son rapport, il n'en a rien, on était guidé par les faits et la loi. Mais quoi qu'il en soit, c'est terminé pour Donald Trump, même si le désistement de Jack Smith de ses affaires était uniquement parce que la politique du département de la justice américaine est qu'on ne peut pas poursuivre un président en exercice, mais il s'en est désisté « without prejudice ». Et ces deux mots indiquent que les affaires peuvent être ranimées quand Donald Trump ne sera plus à la Maison-Blanche. Alors, tout ça dépendra de qui est-ce qui deviendra le président après les élections de 2028. Mais plus généralement, pour le mandat de Donald Trump, pendant son premier mandat, c'était la branche judiciaire qui nous a protégés des excès de Donald Trump, notamment en tout ce qui concerne l'élection qui prétendait voler par Joe Biden. Il y avait une soixantaine de procédures et les cours fédérales, y compris les juges nommés par Donald Trump, étaient unanimes qu'il n'y avait pas de fondement et ils ont débouté Donald Trump de toutes ces affaires-là. La question à savoir, quand il va faire certaines choses qu'on pourrait qualifier d'extrêmes pendant son deuxième mandat, est-ce que les cours fédérales composées de beaucoup de juges nommés par Trump tiendront fort? Moi, je n'ai pas baisse de penser que oui. Et aussi de penser que la Cour suprême, même si elle est très attaquée sur le plan déontologique, notamment dans ce qui concerne les deux juges les plus conservateurs qui ont accepté des voyages et d'autres bénéfices des gens conservateurs qui avaient des questions devant la Cour, est-ce que la Cour suprême va décider à la base de la Constitution et pas pour des raisons politiques? On a vu dans l'affaire de l'immunité présidentielle que la Cour a tranché en faveur de Trump, mais qu'il y avait quand même une juge nommée par Trump qui n'était pas tout à fait d'accord. Et je crois qu'il faut regarder de près comment la Cour suprême va traiter les questions de l'action de Trump dans son deuxième mandat pour voir si nous resterons indemnes, comme c'était le cas pendant son premier mandat, des excès de Donald Trump pendant le deuxième.
En tout cas, l'une des questions qu'il reste et que je n'ai pas le temps de vous poser, mais que je pose parce qu'on aura probablement d'autres occasions d'en parler, c'est comment Trump va-t-il gouverner? Est-ce qu'il va être un hyper-président? Et une relation intéressante à suivre, ça va être la relation entre Elon Musk et Donald Trump. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Stephen Dreyfus. Je rappelle que vous étiez avec nous par téléphone depuis les États-Unis, que vous êtes avocat américain, ancien procureur à New York, ancien président de la Chambre de commerce franco-américaine à New York et ancien président de l'Union internationale des avocats. Et était avec moi en studio Axel Kroos, ancien rédacteur en chef de l'International Herald Tribune à Paris et ancien correspondant de Business Week à Paris, Moscou et Washington. Laurence Nardon, responsable du programme Amérique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et Célia Belin, directrice du bureau parisien de l'ECFR, le European Council on Foreign Relations. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Mathias Golchani, à la réalisation. Et Cécile Lavolo, vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.
Vous écoutez RFI, Marie-France Satin.